Chapitre 62. J'ai peut-être une solution, dit Wolf. Comme Solman, il en était arrivé à la conclusion qu'il n'avait aucune chance de prendre les vaches de vitesse. Une scène de son enfance lui était revenue en mémoire. Et même si le troupeau qui se présentait était 10 ou 20 fois plus imposant que les hordes dispersées par les chasseurs du peuple scorpiote, même si la portée de son fusil entre 1 et 2 kilomètres et sa réserve de munitions risquait d'être insuffisante, il existait une chance de détourner le flot. Minuscule certes, mais il n'en voyait pas d'autre. Solman, Khadija et Moram, prenez les gourdes et foncez le plus vite possible vers la forêt, ajouta-t-il en vérifiant son chargeur. Moi, je reste en arrière pour essayer de les dévier. Comment ? Demanda Moram. Pas le temps de vous l'expliquer. Tu ne comptes tout de même pas flinguer toutes ces vaches avec ton petit joujou. Il me suffira d'en tuer quelques-unes. Fichez le camp. J'ai mes 2 revolvers et quelques balles. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je reste avec toi, protesta Moram. Wolf le fixa avec un sourire qui donnait à la moitié rongée de son visage l'aspect d'un crâne grimaçant. « J'ai vu ce que tu valais comme tireur dans le souterrain de la ville fortifiée. Garde tes balles pour une autre occasion. Et puis je te charge de veiller sur Solman. »«
Qu'est-ce que tu fais d'Ismaïl ?»«
Je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que nous essayons de sauver les vivants. »
Le vieil homme se redressa sur un coude.
« Si je peux. » « Je vous aiderai, Wolf. Donne-moi un de tes revolvers, Moram. Chargé, de préférence. »
Le chauffeur lança un regard éperdu à Solman qui baissa les paupières en signe d'acquiescement. Puis tira un revolver de sa ceinture, vérifia le barillet, désamorça le cran de sûreté et tendit l'arme à Ismaïl. Solman s'avança vers Wolf. La brise avait séché sa sueur. Elle ne s'écoulait plus que des poils agglutinés de sa barbe et des mèches détrempées de sa chevelure.
« Tu es sûr que tu... »« Je ferai de mon mieux, je ne te promets rien. »
Les yeux clairs de Wolf errèrent pendant quelques instants sur le jeune homme au torse décharné qui lui faisait face. Il avait l'impression de se contempler dans un miroir réfléchissant les souvenirs. Il se revit 3 décennies plus tôt... Même maigreur, même cheveux fous sur un côté du crâne. Même embryon de barbe sur la joue droite. Mêmes yeux clairs. Les réflexes forgés par 18 années de clandestinité l'empêchèrent de concrétiser un désir tellement lancinant qu'il était devenu une part de lui-même, au même titre que sa maladie, au même titre que ses nuits d'insomnie. Le désir d'étreindre son fils une seule fois, de déverser enfin son trop-plein de tendresse paternelle. Il devina qu'une retenue interdisait également à Solman de se jeter dans ses bras. Le spectre de sa mère égorgée, ou simplement le manque d'habitude, la pudeur absurde de ceux que la vie a tenus trop longtemps écartés l'un de l'autre. Il pouvait se rejoindre dans le silence de la vision, là où l'incomparable fluidité de l'esprit abolissait les barrières, les distances, mais pas sur cette terre, ni dans ce temps. Sans doute était-ce le châtiment choisi par Mère Nature pour les crimes de Wolf. Solman observa le troupeau qui grossissait à vue d'œil dans les effluves de chaleur. « C'est donc là que nous nous séparons. » Le tremblement du sol sous ses pieds n'était pas le seul responsable des vibrations de sa voix.
On dirait que la vie s'arrange toujours pour nous séparer, murmura Wolf.
Je voulais te dire,
commença Solman,
les mots ont toujours été inutiles. Partez. Et surtout, ne vous retournez pas.
Solman hocha la tête en espérant que Wolf ne remarquerait pas la montée de ses larmes. C'était maintenant. Maintenant que l'urgence ne lui en laissait plus le temps, qu'il éprouvait le besoin pressant de rendre hommage à cet homme qui avait terrassé la douleur et le sommeil pour être le gardien féroce de ses nuits. De lui crier qu'il l'aimait, lui, le scorpiote défiguré par la maladie, le donneur foudroyé, l'assassin de sa mère, le meurtrier du conseil, le fantôme de père.
qu'il emporterait de lui un souvenir pur, magnifique, dans ce monde ou dans un autre. Mais aucun son ne sortait de sa gorge. Aucun influx ne réveillait ses muscles. Seules les larmes coulaient de ses yeux, silencieuses, intarissables.
Te dire,
quelqu'un le tira en arrière. Il parcourut une vingtaine de mètres à reculons, puis, sous la pression insistante de Khadija, il pivota sur lui-même, et, sans même s'en apercevoir, abandonnant sa tunique et ses bottes, il se mit à courir en direction de la masse sombre de la forêt. Il entendit encore des bribes de la voix de Moram.
« Salut, Scorpiote. Oublie tout ce que j'ai pu raconter sur toi. Heureux et fier de t'avoir connu. »
Wolf et Ismaïl marchaient d'un pas rapide en suivant une ligne parallèle à la forêt. Le Scorpiote avait rapidement fait part de ses intentions au vieil homme.
« Oui, ça peut marcher. J'ai déjà vu ce genre de scène dans les vieux westerns, enfin, dans les vieux films de ma jeunesse. »
Wolf n'avait pas perdu de temps à lui demander des explications sur les mots « western » et « film ». Ils avaient décidé de s'avancer le plus possible en direction de l'est afin de se rapprocher du flanc du troupeau, et ainsi d'élargir l'angle de déviation. Animé par un regain d'énergie, Ismaïl n'avait plus qu'un lointain rapport avec le vieillard agonisant qu'il avait été quelques minutes plus tôt. Wolf avait souvent vu des hommes sur le point de mourir se consumer en un ultime feu, puis tomber d'un seul coup, vidés de toute substance, comme des troncs calcinés de l'intérieur. Les silhouettes de Solman, Khadija et Moram n'étaient plus que des points décroissants sur l'herbe agitée par le martèlement des sabots. Le grondement enflait de manière vertigineuse, emplissait tout l'espace, résonnait dans leur cage thoracique. Ils parcoururent près d'un kilomètre avant de grimper sur une éminence de terre noire où, étrangement, pas une herbe n'avait daigné pousser.
« Vous croyez que nous serons en sécurité là-dessus ?» demanda Ismaïl avec une moue sceptique. « Sûrement pas, » répondit Wolf. « Si nous les laissons arriver droit sur nous, il ne restera rien de ce tas de terre et rien de nous. Bah, un jour ou l'autre, de toute façon, il ne restera rien de nous. »
Ils s'assirent au sommet de la butte et surveillèrent la progression du troupeau, fasciné par la puissance qui se dégageait de cette vague profonde et sombre. La terre semblait se rétrécir sous la poussée d'un horizon soudain compact et furieux. Ismaïl observa le revolver de Moram. Il pendait au bout de son bras comme une excroissance incongrue.
« Il aura fallu que j'atteigne ma 175e année pour tenir une arme, » soupira-t-il. « Jusqu'alors, j'ai toujours réussi à me défiler. Que voulez-vous ? Je n'ai pas l'âme d'un guerrier. »
« On peut être un guerrier sans avoir besoin de se servir d'une arme. Et on peut se servir d'une arme sans être un guerrier. »
« J'aurais eu votre détermination. J'aurais pu alerter l'opinion. Essayer d'empêcher ce conflit absurde. Mais je suis resté terré dans mon bunker. » Je me suis condamné à une survie dérisoire, stérile. Vous êtes le père biologique de Solman, n'est-ce pas ?
Wolf ne répondit pas, mais son changement d'expression, la tension soudaine de ses traits, l'éclat de ses yeux avaient valeur d'acquiescement.
Moi qui n'ai jamais été père, une autre forme de lâcheté, sans doute, j'ai, disons, ressenti toute votre souffrance au moment de votre séparation,
reprit le vieil homme.
J'ai compris que vous vous battriez jusqu'à votre dernier souffle pour protéger votre fils. Et j'ai eu honte de mon propre renoncement. Voilà pourquoi je suis à vos côtés. Voilà pourquoi, avant de mourir, je vais me servir de ça.
Il brandit le revolver dans un geste de défi.
La non-violence est parfois la plus pernicieuse, la plus dangereuse des violences, poursuivit-il. Vous avez dit l'autre jour à Moram que vous avez assassiné en toute conscience
parce que cela devait être accompli, et même s'il y avait une part de provocation dans vos propos, ils m'ont fait prendre conscience de mes propres lacunes. Je me suis réfugié derrière un idéal de non-violence par peur de moi-même. C'était un acte de refus et non un consentement. Or, un acte de refus est par définition une opposition, une tension, une violence. Pourtant, le seul coup de poing que j'ai donné de ma vie à Marty Van Eyck, ce maudit Australien, m'a délivré de mes démons bien davantage que tout discours sur l'amour du prochain. La guerre a éclaté parce que moi le premier, nous n'avons pas su être des guerriers, des soldats de la vie.
Le roulement assourdissant des sabots l'avait contraint à hurler. Le troupeau n'était encore qu'une masse indistincte, noyée dans les émanations de vapeurs nimbées de lumière.
« Combien sont-elles, à votre avis ?»
demanda Ismaïl.
« Plusieurs centaines de milliers, sans doute !» cria Wolf. « Tenez-vous prêt à tirer en visant le flanc droit du troupeau !»«
Je ne suis pas pressé, je n'ai que 6 balles !»«
D'accord, vous tirerez quand je rechargerai !»«
Les paroles sont désormais inutiles, n'est-ce pas ?»
Le scorpiote eut un sourire dans lequel Ismaïl entrevit toute la détresse et toute la sérénité du monde. Ils se couchèrent tous les deux sur le ventre et pointèrent leurs armes sur la vague qui s'apprêtait à les engloutir. Solman courait désormais à une allure constante, sans traîner la jambe, comme si son corps ne lui appartenait plus. La fatigue, la peur et la douleur étaient revenus le harceler, au bout seulement d'une poignée de minutes. Mais cette fois, il ne les avait pas refusés, il les avait accueillis, explorés, utilisés comme un support de la vision. Elles n'étaient, elles aussi, que des bruits extérieurs, des facettes du présent, des bornes de l'espace et du temps, des trappes ouvertes sur l'éternité. Tout comme le chagrin qui continuait de lui tirer des larmes, tout comme les trépidations du sol. Tout comme le grondement du troupeau qui se rapprochait à une vitesse effarante. Tout comme le souffle bruyant de Moram et celui plus discret de Khadija. Il ne fixait pas la forêt. Il ne regardait pas derrière lui. Il lui suffisait d'être conscient de ses mouvements, du balancement régulier de ses jambes, de ses bras, du rythme de sa respiration et de son cœur. Il jouissait maintenant de cette légèreté dont il avait toujours rêvé, de ce bonheur inégalable de courir dans le sein de Mère Nature, de cet accord parfait entre les intentions et les actes. Il goûtait les frôlements de l'air brûlant sur son torse nu, le ploiement des herbes et la rudesse de la terre sous ses pieds, l'enfoncement d'un coin du livre dans le pli de son aine, la chaleur des regards étonnés de Khadija.
Putain, elles arrivent !
Hurla Moram en accélérant le train. Solman n'eut pas besoin de se retourner pour se rendre compte que l'immense troupeau s'apprêtait à opérer la jonction. Sa vision le transporta au sommet du monticule de terre où étaient couchés Wolf et Ismaïl. Il pouvait presque sentir sur sa nuque et son dos le souffle des mâles des premiers rangs, la pointe de leurs cornes, l'écume de leurs baves. Il entendit les claquements secs et caractéristiques de détonation. Le scorpiote tirait avec calme. Une seule balle à la fois, visant le flanc droit du troupeau. Des vaches fauchées en pleine course s'abattaient sur l'herbe et, emportées par leur élan, roulaient encore sur une trentaine de mètres avant de s'immobiliser. Leurs congénères se bousculaient pour les éviter, les piétinaient quand elles ne trouvaient pas d'autre passage, rencontraient un deuxième corps un peu plus loin, puis un autre encore un peu plus loin, commençaient à infléchir leur course vers la gauche de la plaine. Entraînaient le reste du troupeau dans leur direction. Solman vit Wolf recharger et Ismaïl prendre le relais. Le vieil homme ouvrit le feu sans trembler, faisant mouche à chaque coup, grossissant la haie de cadavres. Puis, après avoir vidé son barillet, il lâcha le revolver, s'allongea sur le dos et contempla le ciel avec la sérénité de ceux qui ont accompli leur temps. désormais seul face aux murs de cornes, de naseaux, de poitrailles et de sabots qui déferlaient dans un vacarme étourdissant, Wolf tira sans discontinuer. La chaleur de la crosse s'étendit à sa joue. La brûlure de la détente lui transperça l'index. Comme pris dans un entonnoir, le troupeau avait modifié sa trajectoire, mais pas suffisamment pour passer au large de la butte de terre. Le roulement ébranlait le sol, empêchait Wolf de tenir fermement son fusil. Alors il se redressa, et poussant un rugissement de fauve, un rugissement de père, il vida son chargeur sur les bêtes les plus proches.